les 20 ans de l'OQAI. La qualité de l'air intérieur, une filière source d'innovation, de métiers et d'opportunités économiques.
Et nous vous retrouvons en direct des studios. Voilà, on l'a vu tout au long de la journée dans la table ronde précédente, la qualité de l'air intérieur est au cœur des préoccupations. Nous sommes donc au ce colloque de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur qui fête cette année ses 20 ans. Et comment les professionnels du terrain, du traitement de l'air, les spécialistes de ces questions, notamment liées à la ventilation ou la maintenance, s'adaptent et traitent de ces sujets? Nous allons le voir maintenant dans cette dernière table ronde de ce colloque, de cette grande journée. Nous allons le voir avec nos invités, en quoi la filière liée à la qualité de l'air intérieur est plus que jamais source de métiers, d'innovation et d'opportunités économiques. Et pour cela, j'ai plusieurs personnes à mes côtés, également une personne à distance. Donc déjà, je voudrais accueillir Madame Hall, Violaine Hall. Vous êtes responsable technique, filtration et épuration pour la qualité de l'air chez Uniclimat.
Bonjour.
Nous avons également Roland Bouquet qui est à distance, que je vois et que vous nous voyez. Nous sommes ravis de vous accueillir.
Bonjour.
Également. Donc vice-président de l'Association française de la ventilation et président du CINASAV. Et enfin, en plateau, nous avons M. François Christians de Hollandie Solutions et M. Thomas Kerting, délégué général de la Fédération interprofessionnelle des métiers de l'environnement atmosphérique, la FIMEA. J'espère que je
Bonjour,
dis ça bien.
Absolument.
Bonjour, la présidente du forum Les Respirations également. Donc, vous êtes à mes côtés. Alors, peut-être pour commencer cette table ronde, voilà, on l'a vu, le traitement de la qualité de l'air intérieur a évolué. Les attentes des maîtres d'ouvrage comme des utilisateurs se font de plus en plus pressante encore. La recherche avance, on l'a vu, l'Observatoire montre également beaucoup de choses. Et finalement, on se dit qu'il y a l'innovation et les opportunités économiques qui sont là. Et du coup, peut-être commencer par un petit état des lieux de la filière actuelle aujourd'hui. Quels sont ces enjeux? Et alors, honneur aux dames, Madame Hall, vous êtes donc responsable technique, filtration et épuration pour la qualité de l'air chez Uniclimat. Quelle est votre vision aujourd'hui de la filière?
Alors, pour parler des fabricants, déjà, Uniclimat regroupe un certain nombre de fabricants experts dans ce domaine de la qualité de l'air. On a parlé beaucoup de ventilation en logement, mais voilà, si on parle des centrales de traitement d'air, de la filtration, et tout type de bâtiment, en fait. Donc, dans tous ces challenges qui nous sont imposés en tant que fabricants, on ne cesse d'innover. Alors, c'est pas d'hier ou d'il y a 20 ans, mais c'est bien plus ancien que ça, parce que à chaque problématique, on apporte un certain de solutions. Alors j'aime dire qu'on se charge autant de la maison individuelle que l'industrie, le nucléaire ou même l'ISS. Tout ça, dans tous ces endroits, on a besoin d'une certaine qualité de l'air. Et donc c'est pas un problème de ne pas savoir faire, mais c'est de pouvoir adapter. Et ce que j'entends, moi, et tous les travaux que nous suivons, c'est à chaque fois comment est-ce qu'on peut encore davantage adapter les systèmes, c'est-à-dire pas simplement penser cette solution est unique et elle est adaptable un peu beaucoup passionnément. C'est non, en fait, on a vraiment une école qui n'est pas ventilée aujourd'hui et on peut l'envisager d'une autre façon que du bâtiment neuf, qu'un bâtiment qui a déjà bien vécu, qui est rénové et sur lequel il va falloir aussi réfléchir. Et donc tout ça pousse les industriels, la maîtrise d'ouvrage, à réfléchir ensemble comment on peut à chaque fois mieux répondre aux enjeux. Donc on n'est pas à se poser la question d'une solution universelle, au contraire, on fait ça avec beaucoup d'agilité et c'est aussi la force de nos métiers de nous adapter. Et si on parle plus spécifiquement de la filtration que je connais particulièrement, eh bien, dans les différents travaux que nous menons pour tester les filtres, les connaître, là, on a parlé beaucoup de PM10, PM2.5, mais nous faisons déjà et nous avons déjà travaillé depuis de nombreuses années sur des efficacités de filtration sur les PM1 et nous travaillons déjà sur les nanoparticules qui ont été évoquées également. Donc, tout ça est en mouvement perpétuel et c'est un enjeu intéressant. Par rapport au CO2 et à cette façon de faire corréler les niveaux de ventilation ou la ventilation, le CO2, savoir et agir, on voit se développer effectivement de plus en plus de systèmes qui peuvent être asservis justement à ces capteurs. Et donc ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire, on voit, c'est un peu comme chez vous, je donne un exemple, vous avez la température de votre local intérieur et vous savez si vous devez agir ou pas sur votre système de chauffage. Et bien là, vous avez un capteur CO2 et donc vous savez où la machine le fait pour vous, s'il y a lieu ou pas d'aménager les débits. On a parlé, il faut augmenter les débits. Je ne sais pas si c'est la vraie solution. L'idée, c'est d'adapter, encore une fois. On adapte nos solutions à des problématiques. Eh bien, le CO2 peut être à un moment donné un problème. Le système peut répondre en s'adaptant.
Bien sûr,
donc des choses agiles.
Voilà, des choses agiles à chaque fois. Et finalement, on le disait aussi, des comportements à faire évoluer. Et finalement, ça va être l'usager aussi qui va être au cœur de tout ça.
Alors, l'usager, oui. Alors, par moment, on va lui poser la question. On parlait des capteurs dans les écoles. L'usager, à l'école, il a compris peut-être que quand c'était rouge, il fallait ouvrir les fenêtres. Et donc là, c'est quelque chose qui a impacté une action. On parlait de formation au cours de cette journée. Moi, petite, on m'a appris à faire le tri sélectif dans nos logements. Eh bien, demain peut-être, dans les écoles, on pourra apprendre à prendre conscience de cette qualité de l'air et donc à agir. Les capteurs, c'était une vraie bonne idée. Quand on l'a vu arriver, on a dit « Ok, au moins il y a une action qui est engagée derrière une connaissance ». Je parlais du thermomètre tout à l'heure, mais c'est la même chose avec le CO2 et un capteur, c'est ça. Donc, faire agir. Et puis, lorsque les systèmes sont intelligents, alors je prends un autre exemple qui parle à tout le monde. Quand vous êtes au cinéma, vous êtes 10, vous pensez bien que le chauffage ou la climatisation ne va pas être la même que si vous êtes 300 dans la même salle. Eh bien, il y a une intelligence du système par des systèmes de comptage, par des systèmes de capteurs sur l'hygrométrie, la température, qui va faire que le système va réagir. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans nos métiers, du génie climatique, c'est qu'on n'est pas à installer un produit pour tout, mais on s'adapte à chaque solution.
Mais alors justement, côté innovation, on est d'accord, donc chez Olenvie Solutions, justement, vous accompagnez aussi des innovateurs, on peut dire ça comme ça, des innovateurs ?
Oui.
Racontez-nous justement, Monsieur Christian, comment c'est appréhendé aujourd'hui ? Est-ce que vous voyez de plus en plus arriver des gens avec des innovations de ce type ?
Alors oui, nous, on cherche à faire le trait d'union, en fait, entre la recherche et justement les marchés, les acteurs, leurs stratégies. Et nous, par exemple, il y a des innovations. Une innovation, c'est quand même quelque chose qui est nouveau, qui est rentable et qui est aussi écologiquement sain. Donc, il faut que ça coche les trois cases. Pour que ce soit une vraie innovation, il faut que ça rencontre son marché. Il ne faut pas uniquement que ce soit quelque chose de bien. Ce qu'on voit, par exemple, du côté des acteurs, quand on conseille les chercheurs qui ont amélioré un système d'épuration, qui ont développé un capteur qui peut être relativement bas coût juste en modifiant les propriétés du détecteur, par exemple, on remarque que les assureurs s'inquiètent au niveau du bâtiment de l'étanchéité. C'est une étanchéité qui peut être assez forte ou pas assez bien assurée, au contraire, pour les personnes qui ont un faible revenu. Et donc, ils anticipent, ils préfèrent prévenir que guérir, mais en prenant des précautions, en s'assurant que ce soit bien quelque chose d'efficace. Donc là, par exemple, il y a un assureur qui a développé une application qui permet d'inciter à l'aération, qui est donc la deuxième phase, qui est quand même celle qui coûte le moins cher, mais aussi qui tient compte de la qualité de l'air extérieur, en fonction des pollens, si on est asthmatique, etc. Donc il y a une vraie intégration transverse des différents compartiments. Et ça permet de guider le choix d'innovations qui peuvent être issues de la recherche. Parce que pour le moment, la recherche s'est intéressée aux polluants, s'est intéressée aux effets sanitaires, mais ne s'est pas intéressée à mesurer les effets de ces polluants. Mmh. Et en retour, en fait, de ces remarques, de ces besoins qui viennent du marché, ce qui serait bien de pouvoir mettre en place, mais ça c'est un projet pour les 20 prochaines années de l'OQAI, c'est de voir si les effets sanitaires sont réversibles, par exemple. Si c'est réversible, ça veut dire que les systèmes d'épuration, toutes ces solutions qui sont déployées, qui sont mises en place par la filière, acquièrent une légitimité supplémentaire. Elles ont déjà une forte légitimité, mais encore complémentaire, parce qu'on peut se dire, ok, je respire un air qui est purifié, un air qui est plus pur, et dans ce cadre-là, en plus, je pourrais me dégager de ces polluants qui se sont venus s'encrasser chez moi.
Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Kerting. Vous êtes donc de la FIMEA, donc le syndicat des professionnels de la qualité de l'air, en fait, c'est comme ça qu'on pourrait le dire.
Oui, mais même, oui, exactement. C'est le réservoir des solutions de la qualité de l'air. Aujourd'hui, c'est 110-120 entreprises spécialistes, notamment des PME-ETI. Hein. On est en lien avec une trentaine de réseaux référents. Alors, ça peut être de la santé, ça peut être de l'ingénierie publique, ça peut être tout un tas de sujets. On a territorialisé l'action parce qu'on s'est rendu compte que l'air était quelque chose d'universel, mais également de très local. Donc on a 8 antennes sur le territoire français et on regarde à l'international. Et enfin, c'est en fait une filière d'excellence et d'avenir. C'est-à-dire quand on parle de filière stratégique, ben elle est hautement stratégique, évidemment, du côté sanitaire. Et ça, la Covid nous l'a rappelé. La respirabilité devient l'enjeu peut-être principal d'appréhension du monde, mais aussi économique et sociétal.
Bien sûr.
Aujourd'hui, FIMEA s'est rendu compte, on était au Salon des Maires il y a encore 2 semaines, du besoin criant, urgent, d'accompagnement des territoires, des maires, des collectivités locales. Ce besoin d'accompagnement, on y répond avec l'accès aux professionnels, qu'ils soient publics, privés ou associatifs, avec un outil qui s'appelle Ercosystème. Et je pense qu'aujourd'hui, en termes d'innovation et de réponse justement à ce sujet qui monte et à ces angoisses qui sont liées aux actions à prendre, répond à la question et on va le diffuser. Et vous trouverez votre ingénierie publique préférée, les associations de citoyens, les professionnels pour vous accompagner. Bon, nous, il y a plusieurs sujets qui sont liés à la qualité de l'air intérieur, sachant que FIMEA, c'est aussi la qualité de l'air extérieur. Donc nous, on est sur la métrologie, sur les technologies d'épuration, sur l'expertise et sur la communication.
D'accord.
Séverine Kirchner parlait du challenge international des microcapteurs d'AirLab tout à l'heure. Sachez que sur les 12 lauréats, il y en a 7 qui sont français et tous sont chez FIMEA. Donc en fait, on a quand même aujourd'hui mis en place une vraie filière.
On a un réservoir aujourd'hui en France. La France pourrait être leader en fait dans ces domaines-là.
Alors absolument. Déjà, je pense que FIMEA, c'est probablement la première association qualité de l'air au niveau mondial en termes de création, en temps, mais aussi en termes d'effectifs aujourd'hui. Mais c'est aussi une opportunité pour la France sur ses territoires, dans un premier temps, mais aussi à l'export, effectivement, avec cette thématique de ville respirable qui sera durable de ce fait-là. C'est-à-dire, si une ville est durable, on y respire déjà bien dans un premier temps. Et leader, quand on a su l'être sur l'eau, sur l'énergie, sur les déchets, aujourd'hui sur l'air c'est possible. On parlait aussi tout à l'heure de cet effort de synchronisation, donc des cas très concrets. Nous, par exemple, sur la thématique de rénovation thermique des bâtis, notamment à destination des précaires, on travaille beaucoup avec l'association Stop Exclusion, par exemple, pour essayer de lier ce kilowattheure pour les plus fragiles, le plus vert possible, mais avec un mètre cube d'air respirable et potable, parce que sinon on va se retrouver avec un scandale de l'air contaminé si on fait des... Mais je ne reviens pas sur les sujets qui ont été abordés tout à l'heure, mais il faut quand même avoir conscience de ça. Sur le côté des écoles qu'on abordait juste avant, effectivement, le CO2, c'est un indice de confinement, mais il faut y ajouter, quitte à avoir cet effort d'équipement, y ajouter des polluants sanitaires, qualité de l'air. Et comme je disais, donc en fait, on est très en pointe là-dessus. Et derrière, de pouvoir surtout accompagner aussi. J'insiste sur ce mot, en fait, finalement, voilà, toute notre innovation, elle porte évidemment à mettre à disposition les solutions, mais à accompagner les acteurs qui s'en saisissent. Typiquement, aujourd'hui, dans les écoles, on a un voyant rouge, l'enseignant a un droit de retrait. C'est super. Donc on se retrouve sans professeur et les enfants à la maison. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est en fait finalement avoir cette intelligence de la qualité de l'air et pas seulement du CO2, justement pour pouvoir proposer des actions. Donc pour illustrer ce propos qui peut paraître bien loin de la réalité, mais en gros, la thématique du capteur dans l'école, ça peut prendre l'objet d'un projet participatif scientifique avec les enseignants, les parents et les élèves, quitte à apprendre à monter des choses scientifiques, autant que ce soit aussi sur une valeur sanitaire, et ça c'est très important.
Finalement, ce sera les prochains scientifiques de demain qui pourront
absolument
aussi nous aider.
Mais surtout les premiers citoyens qui vont respirer, qui vont pouvoir aussi acculturer leurs parents et derrière faire cette première génération consciente de cette culture du bonheur, quelque part, si vous voulez. Et je voulais juste mentionner le lancement de l'association auquel on participe, qui a été lancée très récemment, qui s'appelle Objectif R, qui essaye justement de faire la catalyse entre les textes qui sont mis en place et la réalité du terrain. Donc là, c'est sur le thème de la qualité de l'air intérieur, à commencer par les écoles. Donc ça, c'est très intéressant. Donc justement, on met ça en place, et jusqu'à la data, qui est essentielle, effectivement, et qui est le nerf de la guerre en bout de chaîne. Et cette data, il faut qu'elle puisse remonter. Donc comment est-ce que vous dépassez un proxy de rectorat, et comment tout ça arrive en open source, open data, pour être vraiment utilisé de manière concrète en plan d'action? C'est FIMEA qui essaye de vous accompagner, en tout cas, et qui réfléchit justement, et toujours en intelligence collaborative, à tout ça.
Donc finalement, on a une filière qui se met en place du côté des industries, les innovations avancent, etc. On va parler maintenant gestion des bâtiments avec Monsieur Bouquet, qui est à distance. Rebonjour Monsieur Bouquet. Donc vous êtes vice-président de l'Association française de ventilation et président du CINASAV. Donc tous ces enjeux-là que nous venons d'entendre, j'imagine pour vous, c'est tout aussi important.
Bien sûr. Écoutez, tout d'abord, je voulais vous remercier. Je voulais remercier l'OQAI pour son invitation, remercier sa présidente André Buchmann, parce que 20 ans, c'est pas rien. Donc, lui souhaiter aussi un bon anniversaire. Alors oui, des initiatives. On l'a vu, comme l'a rappelé Thomas Kerting à l'instant, des initiatives qui naissent bien sûr autour de la QAI. Je crois que c'est super important. Alors, j'ai pas assisté depuis ce matin à la conférence. Je me suis branché en début d'après-midi, mais vraiment, en tout cas, des sujets.
Vous aurez un gage, c'est pas grave.
très très intéressant. Alors oui. je suis président du CINASAV, bien sûr.
Rapidement,
c'est le syndicat national de la maintenance et des services en efficacité énergétique. Donc, en fait, c'est une organisation professionnelle qui regroupe les entreprises de maintenance. Voilà, on est présent sur 800 sites en France. C'est 15 000 salariés. Enfin, 15 000 techniciens qui interviennent tous les jours, surtout dans l'habitat, pour entretenir des chaudières, bien sûr, des pompes à chaleur et aussi des systèmes de ventilation. Alors, eh bien oui, la filière, elle s'est organisée, en tout cas, pour créer une association en début d'année. Alors, elle n'a pas encore 20 ans, elle a une petite année, c'est l'Association française de la ventilation, l'AFV. Je crois que l'idée, c'était vraiment d'embarquer très large, hein, c'est-à-dire d'embarquer les installateurs, d'embarquer les SAV, hein, bien sûr, Uniclimat et les industriels, je crois que ça c'est très important, et aussi les grossistes, hein, qui aujourd'hui, distribuent le matériel sur le territoire. Donc, le but, c'est vraiment d'embarquer toute la filière professionnelle et de finalement structurer, organiser le travail autour des sujets de la qualité d'air intérieur. Vraiment se mettre autour de la table pour mutualiser les ressources et la matière grise. Voilà. Alors, un but principal, hein, indéniable, c'est améliorer la qualité des installations. En fait, essayer que ça soit en neuf ou d'ailleurs en rénovation. Essayer finalement de copier un peu les modèles qui ont fonctionné. On a des assos qui ont 15, 20 ans dans le gaz, dans la pompe à chaleur, et essayer de tirer les expériences et de finalement copier un peu ces systèmes-là de manière à vraiment, encore une fois, structurer la filière, aller tous dans le même sens. Voilà.
Oui, parce que finalement, ça peut aussi influer, voilà, de travailler sur la réglementation, sur les processus qualité.
Exactement.
Parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même, on peut le dire, au niveau de la qualité des installations, la qualité de d'utilisation aussi, finalement, ça a beaucoup contribué à la pollution de l'air intérieur aussi.
Oui, alors, créer une association, c'est bien beau, mais derrière, il faut travailler. On a mis en place des groupes de travail. Je suis d'ailleurs pilote d'un GT maintenance qui va débuter. La première réunion va débuter lundi prochain. Créer des GT. Alors, on a un maintenance, on a un GT réglementation, un groupe de travail réglementation. On l'a vu, hein, je crois que la réglementation aujourd'hui, elle a besoin d'être dépoussiérée. Clairement, on a un GT relations institutionnelles, et puis aussi formation et attractivité métier. Voilà, on l'a dit, si on veut embarquer tout le monde, il faut aussi former des jeunes demain au métier de ventiliste ou au moins, au métier lié autour de la ventilation.
Parce que ça, c'est un vrai problème, ça, d'avoir du personnel qualifié et du personnel formé. En plus, on voit donc il y a des nouvelles choses qui arrivent, donc des typologies de polluants à regarder. Il faut savoir aussi comment bien s'équiper, etc. Donc c'est un vrai besoin, ça, d'avoir du personnel formé, trouver des bras, en fait.
Bien sûr. Vous savez, moi, je suis, outre mes activités associatives, on va dire, et syndicales, je suis chef d'entreprise. J'ai une entreprise d'une quarantaine de personnes et on s'occupe de la ventilation. Et nombre de nos adhérents font de la ventilation en maintenance, en rénovation. Malheureusement, je dis malheureusement parce qu'on s'en occupe peut-être à la fin. On s'en occupe pour aller dépanner.
Ouais, finalement, on vient vous chercher quand c'est en panne, quoi.
D'une manière plus curative que préventive. Donc, le but de cette association aussi, c'est de dire demain, on va aider, accompagner les entreprises à se structurer, à, je dirais, mettre en place des services dédiés à la ventilation, dédiés à la qualité d'air, pour pouvoir traiter ce sujet comme un sujet de maintenance d'une pompe à chaleur ou d'une chaudière. Voilà.
D'autant plus que maintenant, il va y avoir des changements. On a des nouvelles réglementations environnementales qui arrivent, une façon de concevoir ces bâtiments, une façon de devoir concevoir aussi différemment. Hein. Je me tourne vers vous, Violaine, sur concevoir différemment ces innovations techniques, penser leur cycle de vie, tout ça. Enfin, tout ça, ça doit rentrer en jeu.
Oui, alors on n'a pas le temps, mais le sujet est passionnant. Mais sur la RE2020, on a plusieurs sujets. On peut noter, comme il y a les FDES pour les matériaux, mais il y a aussi les PEP pour les équipements, donc on n'est pas en reste pour les équipements. On a aussi un peu la fiche d'identité de son impact dans l'ensemble du bâtiment. Et on l'a dit à plusieurs reprises aujourd'hui, hein, sur la vérification des installations. Nous, on est content que ce soit une obligation et qu'enfin on puisse savoir au temps zéro si ça fonctionne bien, parce que c'est quand même la base. Mais comme on l'a dit aussi toute la journée, le gros enjeu aujourd'hui, il est sur la rénovation.
Bien
donc
sûr.
La rénovation, est-ce que on le dit aussi, si vous revoyez l'isolation de votre bâtiment, si demain on change les open space en flex office, en je ne sais pas quoi, quid de l'installation qui n'avait pas été programmée comme ça au départ. Donc le gros enjeu aussi pour performer en qualité d'air dans les bâtiments rénovés, c'est de tenir ça, de prendre ce sujet très en amont dans le projet, c'est ce que dit Roland. C'est vraiment très très en amont, de façon à ce que ce soit pas à la fin qu'on voit les désordres et qu'on puisse pas revenir sur un certain nombre de phases de ces chantiers.
Bien sûr. Et alors finalement, la pandémie nous montre aussi encore plus l'importance, voilà, de faire attention à sa ventilation, à son aération, à sa qualité de l'air. Et finalement, peut-être est-ce que ça va aussi inciter les pouvoirs publics, alors je pense justement dans les écoles, on en parle qu'il y en a de plus en plus des capteurs qui sont installés, mais c'est pas encore dans toutes les écoles.
Hein. Pourtant, c'est pas dans toutes les écoles, mais il y a des, encore une fois, je crois qu'il faut qu'on le dit, on est plusieurs et on va diffuser, et j'espère qu'après cette journée des 20 ans, on va donner de l'information sur les podcasts pour que les personnes aillent regarder tout ce qui s'est dit dans cette belle journée. Mais on avance à petits pas parfois, c'est vrai, mais là on a quand même on a la matière, on a vraiment tout. Après c'est la volonté, et puis dans les projets, et ça a été dit également aujourd'hui, dans le CCH on a fait mettre et tout le groupe de travail a fait instaurer qu'on veillera à la qualité de l'air, que ce soit du neuf ou de la rénovation. À partir du moment où c'est dans le texte, qui pourrait dire oui, bon, c'est le parent pauvre, on s'en occupe pas, on sait comment on a isolé, on sait comment on a chauffé, on a choisi des belles fenêtres, mais l'air non. Mais non, en fait, l'air oui, et en tête de chapitre. Donc en fait, tout le monde est embarqué tout de suite dès le démarrage du projet, que ce soit du neuf ou de la réno. Donc on y est. Maintenant, les acteurs vont se mettre autour de la table avec cette ambition.
Je crois que tous ceux qui sont là, en tout cas, vous montrez bien que la filière française est à la pointe là-dessus. Alors, justement, on est quand même dans les 20 ans de l'Observatoire, donc l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Qu'est-ce qui, dans ce contexte-là, c'est forcément extrêmement pertinent d'avoir toutes ces données, Monsieur Kerting?
Ah oui, de toute façon, on le disait tout à l'heure, c'est pas le nombre de données qui va, c'est pas les données qui vont manquer, hein, ça c'est sûr. Quelles données, qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, c'est effectivement tout un travail aussi d'ingénierie data, quoi. Enfin, si vous voulez, c'est qu'à un moment donné, effectivement, il faille pouvoir associer plusieurs compétences. C'est-à-dire effectivement voilà, la conception du bâtiment, les équipements, l'accompagnement, l'utilisation de la data, quelle pédagogie, quel plan d'action en cas de dépassement de telle valeur, etc. Mais ça, c'est génial, parce qu'en fait, ça montre que l'air de rien, l'air, c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la santé des enfants, on l'a vu dans les établissements scolaires, mais aussi des profs. Et in extenso, des parents qui vont se faire, j'allais dire, éduquer par leurs enfants, comme ça a été le cas pour, j'allais dire, l'électricité ou le tri des déchets. Ça montre que l'air, c'est un sujet numérique majeur. Ça montre qu'en fait, finalement, l'air, c'est vraiment une infrastructure bien concrète, hein, qui va nous permettre de construire cette transition écologique et cette nouvelle société. Donc la respirabilité au cœur du nouveau modèle, c'est pas une vue de l'esprit, hein. C'est très concret, et la data y participe très fortement. Et tout à l'heure on disait c'est dynamique, etc. Mais ça va aussi être des opportunités socio-économiques, j'allais dire, puisqu'en fait finalement, évidemment, il n'y a pas que les endroits classiques, j'allais dire, liés à la qualité de l'air, enfin, qui pourraient être intuitivement concerné par ça. Je pense à l'environnement, je pense à la santé, mais toute l'économie va muter. Tous les territoires vont muter sur cette thématique de la qualité de l'air. Un territoire sera attractif, on ira dans un territoire parce qu'on y respire bien, comme pour les plages avec le pavillon bleu, si vous voulez. Mais quand vous irez à l'hôtel aussi, ce sera un indicateur en plus. Quand vous irez acheter quelque chose dans une boutique, et figurez-vous bien qu'après le climat et le bilan carbone, ils vont s'intéresser à la pollution de l'air, et donc à la qualité de l'air, et donc comme un avantage comparatif, hein, pour rester dans son business. Donc en fait, finalement, l'air va être présent partout de manière très concrète pour toutes les parties prenantes. permanente et la data y contribue grandement, évidemment.
Et donc, du coup, plein d'innovations et d'évolutions possibles, monsieur Christian, toujours autour de ça. Grâce à ces données et ces data aussi de l'OQAI, ça permet aussi de viser certaines spécificités et donc d'innover.
Oui, l'OQAI joue un rôle intéressant. Elle produit des data et produit, enfin, au-delà des données elles-mêmes, c'est de la connaissance.
Ça permet d'alimenter la recherche finalement et d'améliorer encore.
Voilà, ils ont un rôle d'acteur de recherche en tant que tel et ils alimentent aussi par réseau la recherche française qui est déjà bien mobilisée là-dessus grâce aux efforts d'autres organismes. L'ADEME a pas mal contribué à ça notamment. Je pense aux acteurs comme l'INERIS, le CEREMA, enfin, qui ont été cités, ou l'ANSES de façon abondante. Donc, une des spécificités et de la légitimité de l'OQAI, c'est justement de fournir ces connaissances sur des cas d'usage concrets, des études à la fois objectives, des études de perception, qui viennent compléter, comme autant de pièces d'un puzzle, un tableau pour avoir un point de vue, un panorama qui soit cohérent, concret et qui puisse servir les acteurs de la filière. Et du côté des acteurs de la filière, c'est assez irremplaçable aussi parce qu'en fait, ça donne des résultats indépendants. Parce que quand un acteur, par exemple un ventiliste ou quelqu'un de la climatisation dit « votre air est mauvais, 2, j'ai une solution pour y remédier », c'est le pompier pyromane.
Oui.
C'est-à-dire « ok, il y a le feu et moi j'ai la solution ». C'est beaucoup moins crédible que si c'est le CSTB par exemple, enfin l'OQAI qui dit « on a étudié ça de façon indépendante, on regarde ce qui se passe ».
C'est que tel système est peut-être intéressant à cet endroit-là et
voilà,
peut fonctionner.
Voilà ce qui existe, voilà ce qui pourrait être fait, voilà dans quelle direction on vous recommande, en toute impartialité, d'aller. Et en plus, s'il y a un aspect pour prolonger le trait des actions de l'OQAI vers la durabilité, mm-hmm. et je pense que le trait il est déjà bien prolongé parce que c'est les actions de rénovation qui sont engagées. Et dans l'aspect économie circulaire, un bâtiment, il est d'autant plus durable qu'il dure longtemps. Donc si on peut éviter de produire de la pollution de l'air, de la pollution, etc., en détruisant le bâtiment, mais en l'améliorant et, pas accessoirement, en garantissant la bonne santé de ses occupants, bah, on a tout bon.
Merci beaucoup. Monsieur Bouquet, peut-être, j'imagine que vous êtes tout à fait d'accord avec ce que vous venez d'entendre.
Ah bien sûr. Non, je suis complètement en phase. Je crois que, voilà, c'est on l'a dit, ça a été rappelé toute la journée, c'est un sujet de santé publique, la qualité de l'air intérieur, extérieur aussi, mais intérieur, quand on voit que l'air est 8 fois plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur et que les gens, que les particuliers finalement sont pas forcément informés de ça. Donc on a un gros travail de pédagogie à faire. Vous savez, aujourd'hui, on intervient, je l'ai rappelé tout à l'heure, dans les logements, bon, 14 millions de fois par an chaque année pour entretenir les systèmes. Bon. On entretient 90% des systèmes dans les logements sociaux notamment. Ça doit être demain un formidable laboratoire. Alors j'ai vu que l'OQAI a une enquête en cours, une étude en cours hein, sur 600 logements qui sera bientôt disponible, je crois, qui va se terminer fin 2022 avec des résultats en 2023. Mais en tout cas, il faut qu'on travaille de concert, main dans la main, dans des GT croisés, je l'ai rappelé tout à l'heure, avec des groupes de travail. C'est là où finalement chacun apporte sa contribution, chacun apporte sa pierre à l'édifice pour, au bout du bout, améliorer encore une fois voilà, la qualité des installations, et ça soit en neuf et en réno. Un tout petit mot pour la réno. Voilà, la maison individuelle aujourd'hui, avec son fameux caisson VMC, simple flux dans les combles, il est oublié, il est totalement oublié par les particuliers, mais par aussi les entreprises, c'est ce que j'ai tout à l'heure. On intervient, encore une fois, en curatif, quand c'est vraiment en panne, quand la moisissure commence à arriver, mais il n'y a pas d'obligation d'entretien de ces systèmes. Et c'est bien dommage, et je pense que voilà, on est tous d'accord pour dire qu'il faut structurer ce secteur.
Merci beaucoup, merci Monsieur Bouquet. Alors j'ai envie de terminer avec vous, Madame Hall. On est d'accord, donc c'est vraiment un enjeu incroyable aussi de formation et de sensibilisation. Je crois qu'on en a parlé toute la journée. Oui. Je crois qu'il est important et que l'Observatoire nous apporte ces solutions-là, justement, plus on comprend, plus on apprend, plus on avance et mieux on fait.
Oui, et comme on disait, voilà, place à l'action, on a vraiment besoin de ces études et c'est bien qu'elles soient menées et qu'elles soient sur des panels très différents et demain à venir sur d'autres qu'on a déjà identifiés mais qui seraient intéressants, hein, d'autres lieux, hein, de vie dans lesquels on se trouve. Ces informations nous aident à imaginer demain les différents bâtiments et la façon dont on peut mieux accueillir les occupants. Alors ça va effectivement de l'architecte jusqu'à vous ou moi, enfin tout chaque occupant. Les données quand elles sont disponibles, les enquêtes quand on sait sur quel levier on peut agir, elles sont hyper intéressantes. Voilà, il faut qu'on ait ça en tête. Et puis côté industriel, nous ce qui nous intéresse, enfin voilà, lorsqu'on imagine un produit, lorsqu'on veut répondre à un enjeu, voilà, de savoir de quoi on parle, de quel marché il s'agit, comment est-ce qu'on peut multiplier quelque chose qui serait intéressant.
Vous êtes dans vos stratégies finalement.
Mais oui, voilà, on ne fait pas des choses parce que ça nous fait plaisir, c'est ce que j'aime à dire. L'industriel, il le fait parce que il répond à un enjeu, parce qu'il répond à une problématique du terrain et qui va pouvoir avec sa recherche, avec notre centre technique, le CETIAT, qui est un grand centre dans lequel on peut vraiment, les industriels peuvent aller faire leurs tests, peuvent vraiment avancer dans l'aérolique, dans le chaud, dans le froid. On sait à chaque fois répondre, apporter le maximum pour pouvoir répondre à ces problématiques dans les bâtiments. Donc pour nous, chaque problématique, on va continuer à innover et on le fera, et on le fera en mixant différentes choses parce que c'est intéressant. Et puis sur la notion de faire, c'est-à-dire même si un bâtiment est super efficace, même si les installations elles sont très adaptées, même si on a tous les feux au vert, si on n'a pas l'ensemble, comme le disait Roland Bouquet, l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire on a bien installé, on a réceptionné, on a un bon entretien tout au long de la vie, alors on n'arrivera pas au bon résultat. Si on ne fait pas tout ça en même temps, donc voilà. Et nous, à Uniclimat, on a lancé le combo QAI en accompagnant, par exemple, une des actions, ça a été accompagner les restaurateurs, les hôtels, quand ils ont réouvert après le confinement. Et on leur a mis à disposition un guide pour dire, en fait, à chaque petite étape, vous êtes vous aussi en fait maître de quelque chose. Alors on leur a suggéré un certain nombre d'idées, on leur a dit vous pourriez avoir un responsable qualité d'air dans votre bar. Il n'existe pas, peut-être pas
chacun
une personne,
peut être, voilà.
Mais voilà, parce que du coup le combo c'est aussi ça, c'est de dire il n'y a pas que le système, il n'y a pas que les matériaux, il n'y a pas que les produits de ménage, c'est un ensemble.
Donc si chacun est acteur de sa qualité d'air.
Et bien voilà, chacun est acteur, et si on ne le fait pas ensemble, si on ne le fait pas de façon coordonnée, à un moment ça dysfonctionne, et on le sait très bien sur l'ensemble des projets qu'on peut avoir dans n'importe quel domaine, il y a un dysfonctionnement, vous savez que vous n'arrivez pas à l'objectif. Et bien la qualité d'air, c'est pareil.
Un dernier mot peut-être, Monsieur Cartigne.
Oui, alors pour peut-être conclure, de dire qu'effectivement, avec cette accélération de la prise de conscience des actions à mettre en place face au chaos climatique, la qualité de l'air, qui est un petit peu l'anamorphose de l'invisible, si vous voulez, nous permet de nous en saisir localement et quelle que soit son appartenance à telle ou telle partie prenante. Et donc, en fait, finalement, je trouve que c'est à la fois hyper enthousiasmant, mais c'est surtout un terrain de conquête sur lequel il faut qu'on se positionne très rapidement, sachant qu'on est des atouts vraiment merveilleux en France. Donc voilà, et j'en finirai, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais évidemment, un très bon anniversaire à l'OQAI et un grand merci à André Buchmann, à Séverine Kirchner et Corinne Mandant.
Alors, je me
et vous-même
suis... je me...
Bah,
et aussi,
oui, parce que
oui.
Ça, on oublie.
Voilà,
rien.
Merci. Non, mais c'est aussi les 20 ans de Bâti Actu, mais c'est pas pour ça. Alors, j'ai hésité justement, est-ce qu'on allait chanter un joyeux anniversaire? Non, peut-être pas. Hein. Parce qu'on est, on est devant des micros, on va trop nous entendre. Mais écoutez, merci.
Non, mais on peut faire un...
Ah bah voilà, on va faire un merci beaucoup, merci à vous tous, merci à Monsieur Bouquet qui était avec nous aussi, même s'il est loin. Écoutez, ainsi s'achève ce colloque et nous allons maintenant pouvoir retrouver pour sa conclusion Isabelle Mornas, qui est professeure à l'Université Paris-Descartes, mais qui est également présidente du conseil scientifique de l'OQAI et qui travaille également à l'ANSES. Est-ce que nous pouvons nous connecter? Et elle va donc conclure. En tout cas, merci encore à tous les trois qui est en plateau et merci à Monsieur Bouquet.
Les 20 ans de l'OQAI.